Calade, ma radio, sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Et il est l'heure de reconnaître ces mots avec des mots, et pour cela on est évidemment en compagnie de Christelle Reste, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ça va bien, en forme ?
En forme, oui.
On avait commencé une série sur les liens d'attachement et aujourd'hui, c'est le dernier épisode.
Alors, c'est le dernier épisode, oui, concernant les liens d'attachement insécures. On a pu voir que si certains styles d'attachement, donc sécures, évitants, anxieux, ambivalents, se structurent de manière relativement stable, il en existe un autre, plus complexe et douloureux. C'est le lien d'attachement désorganisé. Ce style d'attachement se construit généralement dans l'enfance, lorsque la figure d'attachement est à la fois source de réconfort et de peur. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet fascinant et parfois troublant, le lien d'attachement désorganisé. Donc contrairement aux autres types d'attachement, celui-ci est marqué par une grande confusion et une absence de stratégie stable pour réguler les émotions. Il peut avoir des conséquences profondes sur la vie affective et sociale, bien entendu. Alors, comment se construit-il et comment se manifeste-t-il à l'enfance et à l'âge adulte ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'en pensez-vous, Mathieu ?
C'est parfait, c'est un beau programme.
N'est-ce pas ?
Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que ce lien d'attachement désorganisé ?
Alors, on va revenir sur la théorie de l'attachement initiée par John Bowlby et développée par Mary Ainsworth. Qui repose sur l'idée que la qualité des premiers liens avec les figures d'attachement influence les relations aux autres. Et influence également les relations futures. Donc l'attachement désorganisé est caractérisé par une incohérence dans la manière dont l'enfant recherche la sécurité et la protection. Les enfants avec ce type d'attachement présentent à la fois une recherche de contact et une peur intense de la figure d'attachement. Et généralement en raison d'une exposition à des comportements qui sont contradictoires ou menaçants de la part des parents.
Alors comment est-ce que ça se construit plus précisément ?
Alors, ce lien est souvent lié à des expériences précoces de maltraitance, de négligence ou de comportements parentaux erratiques, à savoir complètement instables dans la gestion des émotions. Donc face à ces situations, l'enfant développe des stratégies de survie, notamment la dissociation. Donc, il se coupe de ses émotions pour ne pas être submergé par l'angoisse. Donc, c'est, on va dire, tout à fait normal comme fonctionnement au niveau du cerveau. Donc, ça signifie que ce lien d'attachement désorganisé émerge dans un contexte où l'enfant est exposé à des figures parentales qui alternent entre protection et danger. Donc, on peut retrouver ça, en effet, chez des parents qui sont imprévisibles, donc qui sont tantôt rassurants, tantôt menaçants. C'est-à-dire que l'enfant, lui, plutôt va essayer de se tourner vers son parent, va essayer de retrouver un lien de réconfort, et tantôt il va le recevoir, tantôt il ne l'aura pas. Donc, un enfant qui évolue dans cette sphère, instinctivement va rechercher du réconfort auprès toujours de la même personne, qui est son parent au départ. Donc un parent qui, par exemple, maltraitant, peut développer ce type de lien d'attachement. On a aussi, malheureusement, des configurations où l'abus, la négligence et le deuil, par exemple, peuvent être initiateurs de ce type de lien d'attachement. Puis, bien sûr, des parents qui souffrent de troubles psychiatriques graves, par exemple. Okay. Donc, schizophrénie, troubles bipolaires ou autres, qui peuvent justement apporter une forme de complètement d'insécurité par rapport à l'enfant, qui recherche, lui, la sécurité auprès de son parent. Donc, par exemple, on peut très bien avoir Paul qui recherche du réconfort auprès de son parent et qui va à chaque fois se présenter à lui, n'aura pas forcément la même réponse. Donc du coup, peut très bien se retourner vers quelqu'un qui n'est pas le parent, donc soit quelqu'un d'étranger ou soit un grand-parent. Donc il va aller rechercher, quand il se sent en détresse, il va aller rechercher un peu de réconfort auprès d'un adulte qui ne va pas être son parent. Et ça, c'est assez flagrant. Un enfant qui est tout le temps, on va dire, dans les jupons de la grand-mère et qui, avec sa mère ou son père, n'a pas forcément le lien qu'on attend, on peut se dire qu'en effet, l'enfant n'est pas forcément construit, on va dire, de façon stable émotionnellement.
Okay.
Et puis en même temps, on va retrouver ça chez des enfants qui sont en hypervigilance constante, à savoir qu'ils sont toujours là en train d'anticiper la réaction du parent. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Ça, on va trouver ça plutôt dans l'enfance, pas dans la petite enfance, mais dans l'enfance, et puis en tant que jeune ado.
Ok.
Donc ouais. Ça, c'est un signe qu'il faut quand même bien repérer. Donc, juste pour étayer encore un petit peu, dire que par exemple, si Paul il tombe et se blesse, plutôt que de le réconforter, son parent, par exemple, peut très bien le gronder violemment. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais te rends compte dans quel état tu t'es encore mis? Et puis une autre fois, il va se retrouver exactement dans la même situation. Puis son parent, il dit, oh mon pauvre chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, vite, on va aller soigner ça. Et qui fait de façon, on va dire, récurrente, va amener à l'enfant, à Paul, justement, à ne pas savoir sur quel pied danser.
Ok. Donc comment est-ce que ça se manifeste? On a déjà quelques billes, mais comment est-ce que ça se manifeste plus précisément chez l'enfant?
Eh bien, ça, on le voit quelquefois sorti de l'école. L'enfant, pour reprendre un exemple, par exemple Maxence, qui va courir vers son parent en sortant, et puis d'un seul coup, qui parce qu'il a besoin de réconfort, il sort d'une journée d'école, il est super content, et puis, paf, il va s'arrêter. Ça, c'est typique aussi. Donc, les enfants qui restent complètement figés face aux parents et puis qui vont repartir dans l'autre sens.
Ouais, ok.
Et on peut voir également des enfants qui vont avoir beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à réguler leurs émotions, qui vont partir dans des pleurs, après dans des cris, qui va être impossible de calmer.
Ouais.
Et de façon récurrente, bien sûr, hein, c'est pas... attention, hein, je parle bien à nos auditeurs, là, faut pas faire un cas. Une généralité, pas du tout. Mais de façon récurrente, quand un enfant n'arrive pas à se stabiliser, on aura beau dire, avoir des mots réconfortants, l'enfant ne se calme pas.
Ouais.
Donc ça, c'est typique.
Ok. Et une fois l'âge adulte, alors à quoi ça ressemble quelqu'un qui a créé ce lien d'attachement?
Eh bien, avec le temps, quand ces enfants deviennent adultes et qui n'ont pas eu la possibilité, justement, à la fin de l'adolescence, de pouvoir, entre guillemets, choisir un peu leur camp, évitant ou anxieux, parce que vous l'avez compris, on est à chaque fois dans soit j'en veux pas, soit j'angoisse.
Ouais.
Hein, on est vraiment, si je devais schématiser et vulgariser ça un petit peu, c'est soit j'en veux pas, ou soit j'ai beaucoup d'anxiété. Eh bien, l'ado qui n'a pas pu se stabiliser suffisamment va devenir un adulte qui va présenter des relations instables. Dans son interaction à l'autre. Alors, on va retrouver ça, bien sûr, dans la relation amoureuse, hein, une fusion et une distance soudaine. Hein, donc, si par exemple, je devais reprendre mon Paul qui a grandi, hein, donc, qui lui est attiré par une personne qui va être très aimante, qui va être très à l'écoute, bienveillante. Mais dès que la relation devient un petit peu sérieuse, et ben, tout de suite, il va se poser beaucoup de questions. Et même instinctivement, quasiment, il pourra saboter complètement cette relation par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté. Donc, il peut provoquer des disputes. Il peut même tromper sa partenaire et puis disparaître, même temporairement. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut pouvoir repérer. Et surtout que la personne qui le vit puisse aussi le conscientiser, parce que tant qu'elle ne l'a pas conscientisé, elle ne peut rien changer. Et ensuite, on peut aussi retrouver ce type de comportement. On va prendre Maxence, qui lui, lors d'un désaccord, par exemple, avec un proche, un autre adulte, un collègue de travail, peut réagir de manière assez extrême, soit en se fermant totalement, et en fuyant complètement la conversation, ou soit en ayant carrément une crise émotionnelle intense, incontrôlable. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. L'enfant va grandir avec cette instabilité émotionnelle et il va piquer complètement, comme on le dit dans la vie de tous les jours, piquer une crise, à savoir une crise de colère qui va être mêlée à de l'angoisse et qui ne pourra jamais, jamais stopper.
Ouais.
Au bout d'un moment, le cerveau, bien sûr, il se met en off, hein, mais à la base... Il va avoir ce besoin inextricable de vivre cette émotion qui va complètement l'envahir.
Ouais, parce que c'est à travers le réconfort des parents qu'on apprend à gérer nos
émotions. À gérer normalement. Et un enfant qui n'a pas eu ça, eh bien, il ne peut pas s'autogérer. Il peut pas, d'ailleurs, souvent... Moi, je vois dans la vie de tous les jours, en tous les cas du cabinet, certains de mes patients ont ce profil et eux-mêmes souffrent. Mmh. Souffrent énormément. Ouais. Parce que tout ça, l'air de rien, c'est complètement ancré. Donc, ce sont des blessures, on va dire, primaires. Hein, donc, c'est presque du viscéral. Donc, c'est compliqué de pouvoir s'auto-contrôler quand on n'a pas eu cet auto-apprentissage petit, parce que l'air de rien, on apprend à se réconforter seul. Hein. Mmh. Ce qui fait que tout doucement, on va sur le sécure. Donc, ce sont des adultes, très souvent, qui subissent leurs émotions.
Ouais.
Donc,
on a un début de conséquence de ce lien d'attachement. Est-ce qu'il y en a d'autres sur la vie au quotidien des personnes qui créent ce genre de lien?
Oui, d'ailleurs, en tant que parent aussi, on peut avoir ce problème face à un enfant. On peut, le parent qui n'a pas eu justement cette sécurité affective va réagir exactement comme il a été construit. Mmh. Donc, un parent qui a un lien d'attachement plutôt désorganisé va reproduire malheureusement ce qu'il sait faire. Ça, par contre, on le voit dans tous les types d'attachement. Hein.
On reproduit
exactement le lien d'attachement dans lequel on s'est construit. Après, c'est en tant qu'adulte qu'on peut modifier la donne, comme on dit, qu'on peut apprendre à se réparer. Donc, c'est par rapport à la réaction de l'autre, et notamment dans le couple, qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est partie, pourquoi... Et où l'autre va aussi pouvoir donner certaines informations qui, à un moment donné, dans des moments peut-être d'un petit peu plus calme, quand je suis adulte, pouvoir me dire, oui, en fin de compte, c'est pas normal que je me renferme comme ça. C'est pas normal que quand elle est en souffrance, je n'éprouve plus rien. Mmh. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est en souffrance, par exemple, je repense à Paul, qui se retrouve face à un désarroi de sa compagne parce qu'elle est elle vient de vivre quelque chose d'assez difficile. Par exemple, un deuil ou autre chose, qui ne sera pas la réconforter, qui va complètement se couper de ses propres émotions. Mmh. Parce qu'il est incapable, parce que lui, il va être en effet miroir avec ce qu'il a déjà vécu. Et rappelons-nous, la première réaction, c'est « je reste sidéré ». C'est de la sidération. C'est une émotion primaire, la sidération. Donc c'est « je ne comprends pas ». Il n'y a pas de sens. Donc, et du coup, le cerveau se stoppe. Donc, tout à l'heure, je parlais de dissociation chez l'enfant, mais c'est ça. Je coupe.
Ouais, ok. Donc, c'est de la sidération. Mm-hmm. C'est quoi les solutions? Alors, il y en a une que j'ai déjà en tête, qui serait peut-être les TCC.
Oui, bien sûr. Mais bon, n'y voyez aucun prêche pour ma paroisse.
Thérapies comportementales et cognitives.
Oui, mais en fin de compte, on retravaille toute la cognition. Parce que, comme tout à l'heure je le disais, cette blessure est tellement profonde qu'on ne peut pas la modifier. Elle est là. Donc, on ne peut passer que par un autre biais qui est le biais cognitif. Donc, identifier pour modifier ces schémas. Voilà, on a aussi la thérapie, bien sûr, EMDR.
Alors, qu'est-ce que c'est
qui est utile pour traiter les traumatismes de l'enfance. Donc, c'est apporter une désensibilisation de l'émotion sur la situation vécue.
Ok.
Donc, ça peut être un sujet pour une autre chronique. Donc, auditeur, si vous êtes intéressé par une chronique sur le MDR, n'hésitez pas, faites-le savoir à la radio, Radio Calade. Et ensuite, bien sûr, c'est évident, je le dis tout le temps, mais un adulte qui a ce type de lien d'attachement, ce qu'il lui faut aussi, et je dis bien ce qu'il lui faut, une forme d'injonction, c'est un entourage bienveillant et sécurisant. Donc, ça peut l'aider à se reconstruire sur une base affective stable.
Ouais.
Donc, c'est hyper important de le dire. J'ai envie de dire que donc ce lien d'attachement désorganisé, il est complexe. Et comme vous l'aurez compris, il résulte souvent de relations parentales marquées par de l'incohérence et de la peur. Donc, en identifiant ces schémas et en travaillant un petit peu sur soi, un petit peu même beaucoup, il est possible d'évoluer vers un monde et un mode relationnel plus sécurisant.
Avant de conclure, on peut rappeler que ça touche très peu de personnes, parce que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se dire « tiens, c'est peut-être moi », parce qu'on aime bien se reconnaître dans ce genre de modèle. On trouve toujours des façons de s'identifier. Ça touche quand même très peu de personnes. On a peu de chances d'avoir ce lien d'attachement.
Alors, le lien d'attachement désorganisé, de façon générale, on va dire que chez les enfants, on a 30% qui sont sécures, tous les autres étant insécures. Ensuite, ça va être l'évolution de l'enfant dans le monde de l'adolescence et après en tant qu'adulte. Donc tout doucement, tous ces liens insécures ont tendance à aller vers du sécure. Mais il faut déjà prendre conscience de son lien d'attachement. Donc le lien d'attachement désorganisé, on va dire oui, c'est peut-être celui qui est peut-être le plus faiblement dosé au niveau des pourcentages. Donc peut-être qu'il va représenter 15%. Et comme je disais tout à l'heure, c'est à l'adolescence, fin d'adolescence, que l'ado va pouvoir se dire, en fin de compte, je suis plutôt sur le rejet, plutôt sur l'anxiété. Mais s'il n'y arrive pas, les adultes restants représentent, d'après les dernières sources qui étaient parues sur ce sujet, à peu près à 7%.
Ok. Ouais.
Bon, ça, c'est quand même. Okay. C'est pas rien. Sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société bien différente de celle il y a encore 20 ans.
D'accord.
Donc, faut pas l'oublier non plus. Et en conclusion, donc, parce que je vous vois venir encore, Mathieu, ma petite phrase du jour, donc, dite par John Bowlby. Ce que l'on vit dans l'enfance laisse une empreinte, mais l'histoire peut toujours s'écrire autrement.
Super.
Voilà, ne l'oubliez pas.
On parle de quoi la prochaine fois ?
Alors, j'ai eu quelques petits retours de mon côté et je vais continuer sur le lien d'attachement. Apparemment, ça plaît. Et surtout, ça intéresse. Et surtout, on me l'a demandé sur la relation amoureuse.
Ok, cool.
Donc, je vais aborder plutôt un petit peu les liens insécures, donc les trois qu'on a vus ces dernières semaines, dans le lien amoureux.
Ok. Bon, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup.
Merci Mathieu. Merci à tous. Et bonne route.
Bonne route.
Calade.
Ma radio.